Rémy et Margot Griot. Une réalisation de Michel Sidoroff. Avec Nicolas Gonzalez et Clara Noël.
Je m'étais senti rongé par une sorte de trouble surprenant. Il me semblait que tout le monde se détournait de moi, le solitaire. En même temps, qui pouvait bien se détourner de moi? Parce que voici 8 ans que j'habite à Pétersbourg et que je n'ai su m'y faire presque aucune relation. Ce jour-là, je sentais un malaise dans la rue. Et même chez moi, je me sentais bizarre. J'ai tenté de comprendre. Que me manquait-il donc dans mon recoin? Pourquoi avais-je tant de mal à y rester? J'examinais les murs verts, couverts de suie, mon plafond, avec des toiles d'araignée que Matryona, ma bonne, laissait grossir. J'examinais chaque chaise. Le malheur ne venait-il pas de là? Car si ne serait-ce qu'une chaise est déplacée chez moi, je ne sais plus ce que je deviens. Je regardais par la fenêtre. Aucun soulagement. J'ai eu même l'idée d'appeler Matryona pour lui faire des reproches au sujet des toiles d'araignée et en général de son manque de soin. Mais elle s'est contentée de me regarder d'un air surpris et s'en est allée, sans me répondre un mot, si bien que la toile d'araignée trône toujours tranquillement à sa place. J'ai fini par comprendre ce qui se passait. Mais oui, ils me fuyaient tous. C'est que tout Pétersbourg était soit déjà parti, soit en train de partir en vacances. Moi, je n'avais nulle part vraiment où partir en vacances et aucune raison d'y aller. J'étais prêt à partir, mais pas un seul, non pas un seul ne m'invitait. C'était comme si on m'avait oublié, comme si vraiment j'étais pour eux un étranger. J'ai marché beaucoup, longtemps, si bien que je me suis soudain trouvé en dehors de la ville, sans m'en rendre compte. En un instant, j'ai senti la joie qui m'inondait. J'ai fait un pas par-delà la barrière, marché par les champs labourés et les prairies, oubliant la fatigue. Tous les passants me regardaient avec tant de bienveillance, tout juste s'ils ne me saluaient pas. Ils étaient heureux d'on ne savait quoi. Moi aussi, j'étais heureux, comme jamais de ma vie. Je suis rentré en ville très tard. 22 heures avaient déjà sonné. Je devais longer le quai d'un canal où à cette heure-ci, on ne croise plus personne. Je marchais et chantais car quand je suis heureux, je marmonne toujours je ne sais quoi en moi-même. Il m'arriva soudain la plus inattendue des aventures. Un petit peu à l'écart, penchée sur la rambarde du canal, se tenait une femme. Elle s'était accoudée et manifestement, elle regardait l'eau trouble du canal avec une attention profonde. Une jeune fille, une brune. Elle n'a pas semblé entendre mes pas. Elle est restée même immobile quand je suis passé derrière elle, en retenant mon souffle. Bizarre. Sans doute doit-elle penser très fort à quelque chose. Et je me suis figé soudain comme une statue. J'avais cru entendre des sanglots contenus. Non. Je ne m'étais pas trompé. La jeune fille pleurait. Je suis revenu en arrière. J'ai fait un pas vers elle. Mais elle avait compris ce qui se passait, avait baissé la tête et s'était faufilée le long du quai. Je l'ai suivie. Mais elle s'en est rendue compte et elle a traversé la rue. Je n'ai pas osé traverser. Mon cœur battait. Soudain, c'est le hasard qui m'est venu en aide. Soudain, de l'autre côté est apparu un homme. Un homme. Il tanguait en marchant et se tenait au mur par précaution. La jeune fille, quant à elle, allait comme une flèche. Soudain, mon monsieur s'arrache de sa place et vole à toutes jambes. Il court pour rattraper mon inconnue. Elle allait comme le vent, mais le monsieur la rattrape. La jeune fille pousse un cri et... C'est à ce moment-là que je trouve un excellent bâton à mes pieds, en un clin d'œil. Le monsieur comprend en un clin d'œil de quoi il retourne, voit mon bâton, se tait et nous laisse partir. C'est seulement quand nous étions très loin qu'il a protesté contre moi en termes assez sentis. Mais ses paroles nous ont à peine atteints. Donnez-moi le bras. Sans dire un mot, elle me tendit le bras, encore tremblante de peur et d'émotion. Je la regardais à la dérobée. Elle était très mignonne. Brune, j'avais bien deviné. De petites larmes luisaient encore à ses cils noirs. Sa peur toute récente ou son malheur d'avant, je n'en sais rien. Mais un sourire brillait déjà sur ses lèvres. Elle aussi, elle me regarda à la dérobée, rougit légèrement et baissa de nouveau la tête.
Vous voyez ? Pourquoi m'avez-vous repoussé tout à l'heure ?
Mais je ne vous connaissais pas. Je pensais que vous aussi...
Mais vous me connaissez donc maintenant ?
Un peu. Pourquoi tremblez-vous ?
Oui, c'est vrai. Je suis timide avec les femmes. Je suis troublé, je ne le nie pas. Je ressens une espèce de peur, moi, en ce moment. On dirait un rêve. Et même en rêve, je n'avais jamais imaginé qu'un jour je pourrais parler à une femme.
Comment ? Vraiment ?
Oui. J'ai perdu l'habitude des femmes. C'est-à-dire, je n'ai jamais eu l'habitude. Je suis seul, vous comprenez ? Je ne sais même pas comment il faut leur parler. Je ne vous ai pas dit une bêtise ? Dites-le-moi franchement. Je vous préviens, je ne suis pas rancunier.
Non. Non, pas du tout, au contraire. Et si vous exigez que je sois sincère, je vous dirai que les femmes apprécient cette timidité. Et si vous voulez en savoir encore plus, elle me plaît à moi aussi. Et je vous laisse me raccompagner chez moi.
Vous raccompagnez chez vous ?
Oui, enfin, jusque dans ma rue.
Oui, bien sûr. Pardon, excusez-moi.
Allons-y.
Regardez qui je suis. J'ai déjà 26 ans. Je ne fais que rêver sans cesse qu'un jour, peut-être, je finirai par rencontrer quelqu'un. Ah, si vous saviez combien de fois j'ai été amoureux de cette façon.
Mais comment ? Mais de qui ?
Mais de personne. De l'idéal. De celle que je vois dans mes rêves. Plusieurs fois, je me suis mis en tête d'entrer en contact, comme ça, tout simplement, avec une grande dame, dans la rue, évidemment, quand elle est seule. Lui dire que je me meurs de solitude, qu'elle ne me chasse pas, et que finalement, tout ce que je demande, c'est une sœur. Qu'elle écoute ce que j'ai à lui dire, qu'elle rit de moi si ça lui plaît, qu'elle me laisse un espoir et me dise deux mots, rien que deux mots, même si nous ne devons jamais nous revoir. Mais vous riez ?
Pourquoi avez-vous su que j'étais la femme avec laquelle... Enfin, pourquoi vous êtes-vous décidé à m'adresser la parole ?
Pourquoi ? Vous étiez seul, ce monsieur était trop audacieux. La nuit accordée que c'était un devoir.
Non, non, encore avant, là-bas, quand j'étais toute seule. Vous vouliez déjà me parler, n'est-ce pas ?
Là-bas ? Mais vraiment, je ne sais pas comment vous dire. J'ai peur. Parce que j'étais heureux aujourd'hui. Vous, j'ai eu cette impression, peut-être... Enfin, pardonnez-moi si je vous y refais penser. J'ai eu l'impression que vous pleuriez. Et je... Une chose que je ne pouvais pas supporter d'entendre.
Laissez. Ne dites rien. C'est ma faute à moi si j'ai parlé de ça. Mais je suis heureuse de m'être trompée sur votre compte. Me voici rentrée. Je tourne ici dans cette ruelle. C'est à deux pas. Adieu. Je vous remercie.
Comment ? Est-ce possible, nous ne nous reverrons plus ?
Vous voyez, vous ne vouliez que deux mots et maintenant, nous nous reverrons peut-être.
Écoutez-moi ! Écoutez-moi. Pardonnez-moi si je parle encore de travers. Mais voilà, je ne peux pas ne pas venir demain. Je viendrai là-bas, coûte que coûte, oui, à la même heure, et je serai heureux en me souvenant de ce qui s'est passé. J'ai déjà comme cela deux ou trois lieux à Pétersbourg. Une fois, j'ai même pleuré à cause d'un souvenir, comme vous. Peut-être, vous aussi, vous pleuriez à cause d'un souvenir. Mais pardonnez-moi, je me suis encore oublié. Peut-être, un jour, avez-vous été particulièrement heureuse là-bas.
Bon. Je crois que je viendrai demain, moi aussi, à 22h. Il faut que je sois là-bas. Ne pensez pas que je vous fixe un rendez-vous. Mais voilà. Bon, ce n'est pas grave si vous aussi, vous venez. Bref, j'aurais simplement envie de vous voir. Pour vous dire deux mots. Seulement, à l'avance, une condition.
Une condition ? Dites-la, j'accepte tout. Je suis prêt à tout.
Je vous en prie, faites ce que je vous demande. Vous voyez, je suis franche. Ne tombez pas amoureux de moi. C'est impossible, je vous assure. Pour l'amitié, je suis prête. Mais tomber amoureux, interdit, c'est un ordre.
Je vous le jure.
Si vous saviez. Moi non plus, je n'ai personne à qui parler, à qui demander conseil. N'est-ce pas que vous ne me trahirez pas ?
Vous verrez. Seulement, je ne sais pas si je pourrai survivre 24 heures.
Dormez le plus possible. Bonne nuit. L'idée m'est venue tout de suite de me confier à vous.
Je vous en prie. Mais pourquoi ?
À demain. Peut-être je vous le dirai dès demain. Peut-être pas. Au revoir.
Au revoir.
Nous nous quittâmes. Je marchais toute la nuit. Je ne pouvais pas me décider à rentrer chez moi. J'étais tellement heureux. À demain.
Eh bien, vous avez survécu ?
Je suis là depuis 2 heures. Vous ne savez pas comment j'ai passé cette journée.
D'abord, je vous le demande, ne me serrez pas les mains si fort. Ensuite, j'ai beaucoup réfléchi sur votre compte aujourd'hui.
Eh bien, qu'avez-vous donc conclu ?
Qu'il faut tout reprendre de zéro. Parce que pour conclure, j'ai décidé que vous m'étiez encore totalement inconnue. Que j'ai agi hier comme une enfant, une petite fille. J'ai décidé de vous connaître dans les moindres détails. Eh bien, quel genre d'homme êtes-vous ? Vite, commencez donc. Racontez votre histoire.
Mon histoire. Mais qui vous a dit que j'avais une histoire ? Je n'ai aucune histoire.
Comment avez-vous donc vécu si vous n'avez aucune histoire ?
Mais sans la moindre histoire. J'ai vécu dans mon trou, c'est-à-dire entièrement seul. Seul, complètement seul.
Vous n'avez jamais vu personne ?
Oh, voir si. Je vois des gens, mais je suis quand même seul.
Alors, vous ne parlez à personne ?
Personne.
Mais qui êtes-vous ? Expliquez-vous.
Bon, vous voulez savoir qui je suis ?
Oui.
Eh bien, je suis un type.
Un type ? Un type ? Comment un type ? Allez, commencez votre histoire, parce que vous aurez beau me dire, vous avez une histoire, mais vous essayez de me la cacher. D'abord, qu'est-ce que c'est un type ?
Un type ? Un type, c'est un original, un drôle d'individu. C'est une espèce de caractère. Savez-vous ce que c'est qu'un rêveur ?
Un rêveur ? Mais bien sûr que je le sais. Je suis une rêveuse moi-même. Des fois, on se met à rêver, on ne s'arrête plus. Eh bien, je me marie avec le prince de Chine. C'est que des fois, ça fait du bien de rêver.
Magnifique ! S'il vous est déjà arrivé de vous marier avec le prince de Chine, je crois que vous me comprendrez parfaitement. Eh bien, écoutez-moi. Mais je ne sais même pas comment vous vous appelez.
Je m'appelle Nastenka.
Nastenka ?
Vous trouvez que ça ne me va pas ?
Si ! Nastenka, c'est beau. Nastenka, au contraire, c'est très beau. Nastenka.
Ah, vous voyez. Alors ?
Eh bien alors, Nastenka, c'est une histoire très drôle. Nastenka, je crois que je ne me lasserai jamais de vous appeler Nastenka. Le rêveur loge de préférence dans les coins les plus inaccessibles, comme s'il s'y cachait, même de la lumière du jour. Et une fois rentré chez lui, il s'incruste dans son coin, comme un Bernard l'ermite. Ou bien comme cet animal passionnant qui est à la fois un animal et une maison, et qu'on appelle une tortue. Pourquoi aime-t-il tant ces quatre murs, toujours peints en verre, couverts de suie et enfumés de tabac comme il n'est pas permis ? Vous voulez savoir ce que notre héros peut bien faire dans son coin, ou pour mieux dire, moi, car le héros de l'affaire, c'est moi. C'est ma modeste personne. Vous voulez savoir ?
Mais oui, oui. Écoutez, vous racontez très bien, mais n'y aurait-il pas moyen de raconter un peu moins bien ? On dirait que vous parlez comme dans un livre.
Je ne sais pas raconter autrement. Depuis longtemps, je cherchais quelqu'un à qui parler. Et maintenant, 1000 trappes se sont ouvertes dans ma tête et je dois m'épancher en fleuve de paroles, sinon j'étoufferai. Je vous demande de ne pas m'interrompre, Nastenka, et de m'écouter, sinon je me tais.
Oui.
Je continue. Dans ma journée, il y a une heure que j'aime par-dessus toutes. C'est l'heure où tout le monde sort du travail et se presse de rentrer et en chemin imagine ce qu'il va faire de tout le temps libre qui lui reste. Donc, à cette heure, notre héros, comme les autres, vous me permettez de raconter à la troisième personne, parce que je suis terriblement gêné de le raconter à la première. Donc, à cette heure, notre héros, qui lui aussi rentre du travail, marche derrière ses semblables.
Il est heureux parce qu'il en a fini avec toutes ses affaires ennuyeuses. Mais le voilà plongé dans une méditation. Vous vous demandez peut-être de quoi il rêve? Mais il rêve de tout. Et il ne désire rien. Parce qu'il est au-dessus des désirs. Parce qu'il a tout. Parce qu'il est lui-même l'artiste de sa vie. Qu'il l'a créé lui-même. Et ce monde de contes, ce monde fantastique, quand il se crée, c'est tellement facile. Tellement naturel. Oui, je suis prêt à le croire parfois. Cette vie n'est pas une excitation des sens. Un mirage, un leurre de l'imagination. Elle est vraiment réelle. Oui, présente, existante. Pourquoi donc, dites-le-moi, pourquoi donc, en de pareilles minutes, le cœur se serre-t-il? Pourquoi, par une espèce de magie, les larmes jaillissent-elles des yeux? Ses joues pâles et émouillées se mettent-elles à brûler et toute l'existence se remplit-elle d'une joie si incontrôlable? Regardez seulement. Vous serez convaincu. Mais quand il revient à la réalité, il est fatigué, épuisé. Il a encore passé une longue nuit d'insomnie. Est-il possible que tout n'ait été qu'un rêve?
Est-il vraiment possible que vous ayez vécu ainsi toute votre vie?
Toute ma vie, Nastenka, toute ma vie. Et je crois bien que c'est ainsi que je la finirai.
Non, il ne faut pas. Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça.
Je le sais, Nastenka, je le sais. J'ai perdu en vain les meilleures années de ma vie. À présent que je suis auprès de vous et que je vous parle, j'ai même peur de penser à après, parce que après, je retrouverai ma solitude, cette vie renfermée, inutile. Et à quoi donc pourrais-je rêver si, près de vous, dans le réel, j'ai été si heureux? Je peux déjà dire que j'ai vécu ne serait-ce que 2 soirs dans ma vie.
Oh non, 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 tout ça c'est fini. Nous ne nous quitterons pas comme ça. Qu'est-ce que c'est que 2 soirs?
Ne croyez pas que j'exagère quoi que ce soit, ne croyez pas cela, Nastenka. Parce que je commence à croire que je ne serai jamais capable de commencer à vivre une vraie vie. Parce qu'il me semble déjà que j'ai perdu toute sensation du réel, du présent. Parce que, pour finir, après le fantastique de mes nuits, je suis assailli par des minutes de réveil. Des minutes effrayantes. Entendre la foule des hommes et qui tournoient autour de soi dans le tourbillon de la vie. Entendre, voir les gens qui vivent. Ils vivent pour de bon. Voir que la vie ne leur est pas interdite. Que leur vie ne se disloque pas comme un rêve. Et quelle fantaisie dans cette souffrance-là! Et je me demande, où sont passés mes rêves? Et je me dis, comme les années s'envolent vite, et je me demande encore, qu'ai-je donc fait de mes années? Où as-tu enterré la meilleure part de toi? As-tu vécu ou non? Attention, tu te dis, attention, tout sur terre s'éteint. Les années passeront, elles seront suivies par une solitude lugubre, et la vieillesse branlante, la souffrance et l'ennui. Ton monde fantastique pâlira, tes rêves mourront, se faneront, ils tomberont comme les feuilles jaunes de l'automne.
Bon, c'est fini maintenant. Maintenant nous sommes ensemble. Maintenant, quoi qu'il puisse m'arriver, nous ne nous quitterons pas. Écoutez-moi, je suis une jeune fille simple, je n'ai pas fait beaucoup d'études, mais vraiment, je vous comprends. Parce que tout ce que vous venez de me dire, je l'ai vécu moi-même. Bien sûr, je n'aurais pas pu le dire aussi bien que vous. Mais je suis très heureuse que vous vous soyez complètement confiée à moi. Maintenant, je vous connais tout à fait. Je vous connais tout entier. Et vous savez, je veux vous raconter mon histoire à mon tour. Toute mon histoire, sans rien vous cacher. Et vous, après cela, vous me donnerez un conseil. Vous me promettez qu'après cela, vous me donnerez ce conseil? J'ai une vieille grand-mère qui est aveugle. Je me suis retrouvée chez elle, encore toute petite après la mort de ma mère et de mon père. C'est elle qui m'a appris le français, puis elle a fait venir un professeur. Quand j'ai eu 15 ans, aujourd'hui j'en ai 17, les études se sont arrêtées. C'est à ce moment-là que j'ai fait une bêtise. Laquelle, je ne vous le dirai pas, mais ce n'était pas une grosse bêtise. Sauf que grand-mère me dit que comme elle est aveugle, elle ne peut pas me surveiller, et elle prend une épingle, accroche sa robe à la mienne, et me dit aussitôt que nous allons rester ainsi toute notre vie, et si bien entendu je ne me corrige pas. Bon, et donc, j'ai encore oublié de vous dire que nous avons, enfin, que grand-mère a une maison. Je veux dire, une maison toute petite, 3 fenêtres en tout, rien qu'en bois, et aussi vieille que grand-mère, avec au-dessus une chambre. C'est donc dans cette chambre qu'est venu s'installer un locataire. Parce que nous ne pouvons pas vivre sans locataire. Avec la pension de grand-mère, c'est notre seul revenu. Un jeune homme, pas d'ici, de passage. Comme il ne marchande pas, grand-mère l'accepte. Mais après, elle me demande.
Dis donc, Nastenka, notre locataire, il est jeune?
Eh bien, grand-mère, on ne peut pas dire qu'il soit très jeune, mais ce n'est pas un vieux.
Bon. Et de physique, il est plaisant?
Oh oui, de physique, il est très plaisant, grand-mère.
Ah, malédiction, malédiction. Je te dis ça, ma petite fille, pour que tu ne le regardes pas trop. Quelle époque! Ça n'était pas ça dans l'ancien temps.
Moi, je reste là, je me tais. Une fois, un matin, le locataire vient nous voir parce qu'on lui avait promis de repeindre les murs. Nous bavardons. Grand-mère, elle est bavarde. Puis, elle me demande d'aller chercher le portefeuille dans sa chambre. Moi, je sursaute, je rougis, je ne sais pas pourquoi, des pieds jusqu'à la tête. J'oublie complètement que je suis épinglée. Au lieu d'enlever mon épingle tout doucement pour que le locataire ne se doute de rien, je prends un tel élan que le fauteuil et grand-mère partent avec moi. Je me fiche sur place. Je fonds en larmes. Tellement j'ai honte. Tellement ça fait mal à cet instant. J'aurais préféré mourir. Grand-mère qui me crie « Qu'est-ce que tu fais ?» Et moi, encore pire. Le locataire, il a vu ça. Il a vu que j'avais honte. Il a salué. Il est sorti tout de suite. Après, dès qu'il y avait du bruit dans l'entrée, je me figeais. Voilà le locataire qui vient. Et doucement, je dégrafais mon épingle. Seulement, ce n'était pas lui. Il ne venait pas. 2 semaines plus tard, le locataire envoie Fiocla me dire qu'il a beaucoup de livres. Tous des bons livres. La grand-mère ne voudra-t-elle pas que je les lui lise pour la distraire? Grand-mère accepte avec reconnaissance. Elle demande seulement si ces livres-là sont des livres moraux.
Parce que des livres sont morales, tu n'as pas le droit, Nastenka. Pas du tout le droit de les lire. Tu apprendrais le mauvais exemple.
Qu'est-ce que j'apprendrais donc, grand-mère? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dedans?
Ah, ce qu'il y a d'écrit là-dedans, c'est comment des jeunes gens séduisent des vierges de bonnes mœurs. Et comment, sous le prétexte qu'ils veulent les épouser, ils les arrachent au foyer de leurs parents. Et après, ils abandonnent ces malheureuses filles à leur destin et elles périssent de la plus pitoyable des manières. Moi, j'en ai lu beaucoup, des livres comme ça. C'est tellement bien décrit là-dedans. On peut passer la nuit à lire sans s'en rendre compte. Alors toi, Nastenka, attention, ne les lis pas. Qu'est-ce donc que ces livres qu'ils nous envoient?
Tous des romans de Walter Scott, grand-mère.
Des romans de Walter Scott? Ouais. Il n'y aurait pas des manigances là-dessous. Regarde bien, il n'y aurait pas glissé un petit mot galant?
Non, grand-mère, il n'y a pas de mot.
Regarde bien, sous la reliure. Ils mettent parfois sous la reliure, les bandits.
Non, grand-mère, même sous la reliure, il n'y a rien.
Ah bon? Alors ça va.
Nous nous mîmes donc à lire Walter Scott. En un peu plus d'un mois, nous en avions déjà lu la moitié. Après, il nous en envoya d'autres, et encore d'autres. Il nous envoya Pushkin, si bien qu'à la fin, je ne pouvais plus me passer de livres, et je ne rêvais plus au moyen d'épouser le prince de Chine. Nous vivions donc ainsi, quand un beau jour, il m'arriva de croiser notre locataire dans l'escalier. Il s'arrêta, je rougis. Il rougit également. Puis il se mit à rire et me dit...
Eh bien, les livres, vous les avez lus?
Oui.
Et qu'avez-vous préféré?
Moi, j'ai préféré Ivanhoé, et puis Pushkin.
Dites-moi, vous ne vous ennuyez pas toute la journée à rester avec votre grand-mère?
À peine il me demande ça. Moi, je ne sais pas pourquoi, je me mets à rougir. J'ai honte et je me sens humiliée. Je voulais ne rien répondre et m'en aller, mais je n'ai pas eu la force.
Écoutez-moi. Voulez-vous venir au théâtre avec moi?
Au théâtre? Mes grands-mères. Et après le repas, il vient nous voir. Il prend une chaise, il parle longuement avec grand-mère, il lui demande si elle sort de temps en temps, si elle a des amis. Et tout à coup, il lui dit...
J'avais pris des places ce soir pour l'opéra. On joue le barbier de Séville. Des amis voulaient venir, mais ils ne peuvent plus.
Le barbier de Séville. C'est le même barbier que dans le temps.
Oui, oui, c'est le même barbier.
Et il me lance un clin d'œil. Moi, j'avais déjà tout compris. Je rougis.
Bah oui, hein? Allons-y. Pourquoi se refuser ça? Et puis mon Nastenka qui n'est encore jamais allée au théâtre.
Mon Dieu, quelle joie! L'impression que nous fit le barbier de Séville. Oh, quelle joie! Je me suis couchée, j'étais si fière, si gaie, mon cœur battait si fort. J'ai eu une petite poussée de fièvre. Toute la nuit, j'ai déliré sur le barbier. Je pensais qu'après cela, il viendrait de plus en plus. Et non, il ne se montra presque plus. Moi, je ne pouvais plus rester en place. Je lisais sans lire, je travaillais sans travailler, parfois je riais et je faisais n'importe quoi. Parfois je pleurais tout simplement. À la fin, j'ai maigri et j'ai failli tomber malade. J'ai presque fini. Il y a tout juste un an, notre locataire arrive et vient dire à grand-mère qu'il doit repartir pour un an à Moscou. Moi, j'entends ça, je deviens pâle, comme une morte. Grand-mère ne remarque rien et lui... Il nous salue et il s'en va. Qu'est-ce que je devais faire? J'ai réfléchi. Longtemps, longtemps. Tout ce que j'ai souffert. Et j'ai fini par me décider. Il devait partir le lendemain. Et j'avais décidé que j'aurais tout réglé le soir. Après que grand-mère serait allée dormir. C'est ce qui s'est passé. J'ai préparé mon sac. Et à moitié morte de peur... Je me suis dirigée vers la chambre de notre locataire. J'ai dû mettre une bonne heure à monter les étages. Quand j'ai ouvert sa porte, il a même poussé un cri en me voyant. Il s'est précipité pour me donner de l'eau parce que j'avais du mal à tenir sur mes jambes. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai mis les mains sur mon visage. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. Lui, il se tenait devant moi, tout pâle. Et il me regardait avec des yeux si tristes.
Écoutez. Écoutez, Nastenka. Je ne peux rien pour l'instant.
Nous avons parlé longtemps. Et puis j'ai fini par avoir une crise nerveuse. J'ai dit que je ne pouvais plus vivre chez grand-mère, que je m'enfuirais de chez elle, que je ne voulais plus être épinglée et que... il ferait ce qu'il voulait. J'allais partir avec lui à Moscou parce que je ne pouvais pas vivre sans lui. Alors il me dit, lui aussi au bord des larmes.
Écoutez-moi, je pars à Moscou et j'y resterai juste un an. Quand je reviendrai, si vous n'avez pas cessé de m'aimer, je vous le jure, nous serons heureux.
Voilà ce qu'il me dit et il part le lendemain. Nous avons décidé de ne rien dire à grand-mère. Voilà, maintenant mon histoire est presque terminée. Il s'est passé exactement un an. Il est revenu. Il est ici depuis 3 jours. Et...
Et quoi?
Il n'est pas venu de tout ce temps-là. Pas même un signe de vie.
Nastenka, ne pleurez pas. Qu'en savez-vous? Peut-être n'est-il pas encore rentré.
Mais non, mais non. Il est là, je le sais. Nous en étions convenus dès ce soir-là avant qu'il ne parte. Quand nous nous sommes dit ce que je vous ai rapporté, nous sommes sortis nous promener là, sur ce quai. Il était 22 heures. Nous étions assis sur ce banc. Il m'a dit qu'il viendrait sitôt qu'il arriverait. Maintenant il est rentré, je le sais, lui, il n'est pas là. Pas là.
Mais n'y a-t-il vraiment aucun moyen de réparer ce malheur? Dites, Nastenka, serait-il impossible que moi j'aille le voir?
Vous croyez que c'est possible?
Non, bien sûr que non. Mais tenez, écrivez-lui une lettre.
Non, c'est impossible, je ne peux pas.
Comment vous ne pouvez pas? Comment donc? Mais savez-vous quelle lettre, Nastenka? Il y a lettre et lettre. Et fiez-vous à moi, fiez-vous à moi. Je ne vous donnerai pas de mauvais conseils. Tout peut encore s'arranger. C'est vous qui avez fait le premier pas. Alors pourquoi maintenant
Impossible. Impossible. J'aurais l'air de m'imposer.
Oh, Nastenka, mais non, non. Vous en avez le droit à la fin, parce que c'est lui qui vous a fait un serment. Et puis tous les signes me montrent que c'est un homme délicat, qu'il a très bien agi. Vous en avez le droit. Vous avez un avantage sur lui.
Merci. Oh, merci beaucoup.
Pourquoi ?
Eh bien, ne serait-ce que pour ça.
C'est vrai qu'il nous arrive de remercier des gens simplement parce qu'ils vivent avec nous. Moi, je vous remercie parce que nous nous sommes rencontrés.
Bon, assez, assez. Et maintenant, voilà, écoutez bien. Nous avions conclu que dès qu'il rentrerait, il me laisserait une lettre chez des amis à moi, ou bien il viendrait ici, à 22h précise. Voilà 3 jours qu'il n'y a ni lettre, ni lui. Quitter grand-mère en journée, c'est absolument impossible. Apportez ma lettre demain à mes amis, ils s'en occuperont. Et s'il y a une réponse, vous me la rapporterez le soir, à 22h.
Mais la lettre, avant il faut l'écrire, cette lettre.
la lettre, mais je l'ai déjà écrite. Voilà la lettre. Voici l'adresse où la porter. Adieu. Au revoir. À demain.
Elle me serra très fort les deux mains et fila comme une flèche dans sa ruelle. Je restai longtemps figé, la suivant du regard. À demain. À demain.
J'étais venu le cœur débordant. Tout juste si j'avais su attendre l'heure du rendez-vous. Elle éclatait de joie. Elle attendait une réponse. Cette réponse, c'était lui. Il devait venir, courir à son appel. Elle m'avait devancé d'une bonne heure. Au début, elle riait aux éclats. Elle riait à tout ce que je disais. Je voulus parler, mais je me tus.
Savez-vous pourquoi je suis si contente? Si contente de vous voir? Pourquoi je vous aime tant aujourd'hui?
Eh bien?
Je vous aime parce que vous n'êtes pas tombé amoureux de moi. Un autre, à votre place, voudrait me troubler, insister, et vous, vous êtes tellement gentil. Quel ami vous êtes! Comme j'aime la façon dont vous m'aimez. Quand je serai mariée, nous serons très amis, beaucoup mieux que des frères. Je vous aimerai presque autant que lui.
Vous avez peur? Vous pensez qu'il ne viendra pas?
Oui. Je me sens toute bizarre. Je suis comme tout entière dans l'attente. Je ressens la moindre chose comme de trop près. Mais bon, assez parlé de sentiments, ça suffit. De quoi avez-vous peur? Pourquoi m'avez-vous lâché la main? Eh bien, et alors? Nous le retrouverons ensemble. Je veux qu'il voie comment nous nous aimons.
Comment nous nous aimons? Oh Nastenka, Nastenka, combien tu en as dit par ce mot-là? Cette espèce d'amour, parfois, elle vous glace le cœur, elle vous oppresse l'âme. Ta main est froide, la mienne est chaude comme le feu. Comme tu es aveugle, Nastenka. Oh, que les gens heureux peuvent être insupportables. Mais je ne pouvais pas me fâcher contre toi. Écoutez-moi, Nastenka. Savez-vous ce que j'ai vécu toute cette journée?
Eh bien, quoi? Racontez. Mais pourquoi n'avez-vous rien dit?
Il faut que je vous dise. J'ai donné la lettre, rendu visite à vos amis, et après... Après, je suis rentré chez moi et je me suis couché.
C'est tout?
Oui, c'est presque tout. Je me suis réveillé 1 heure avant notre rendez-vous, comme si je n'avais pas dormi. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je marchais, je voulais tout vous raconter, comme si pour moi, le temps venait de s'arrêter, comme si toute la vie s'était arrêtée pour moi.
Mais qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends pas.
Ah, oh, Nastenka, je voulais, d'une façon ou d'une autre, vous dire... Écoutez, il est 23h, n'est-ce pas?
Oui, 23h. Il ne viendra plus.
Et puis, c'est ridicule. Il ne pouvait pas venir. Réfléchissez un peu. Il a à peine eu le temps de recevoir la lettre. Supposons qu'il ne puisse pas venir. Supposons qu'il réponde. Eh bien, sa lettre, vous ne l'aurez pas avant demain. Moi, dès demain, à l'aube, j'irai la chercher et je vous le ferai savoir tout de suite. Supposons. Enfin, 1000 choses.
Eh bien, qu'il n'était pas chez lui quand la lettre est arrivée. Peut-être ne l'a-t-il pas lue jusqu'à présent. Sait-on jamais?
Oui, oui, bien sûr qu'on ne sait jamais. Voilà ce que vous allez faire. Vous y allez demain le plus tôt possible, et si vous recevez quelque chose, vous me le faites savoir tout de suite. Je pense à vous. Vous êtes si bon. J'aurais un cœur de pierre si je ne le sentais pas. Vous savez ce qui vient de me passer par la tête? Je vous comparais tous les deux. Pourquoi n'est-il pas vous? Pourquoi n'est-il pas comme vous? Il est moins bien que vous, même si je l'aime plus que vous. Bien sûr, je ne le comprends peut-être pas encore entièrement. Je ne le connais pas entièrement. Vous savez, c'est comme si j'avais toujours eu peur de lui, que je le respectais trop. Et cela veut dire, n'est-ce pas, que nous ne sommes pas égaux?
Non, Nastenka, non. Cela veut dire que vous l'aimez plus que tout au monde. Que vous l'aimez beaucoup plus que vous-même.
Oui. Supposons que c'est ça. Mais vous savez ce qui vient de me passer par la tête? Mais ce que je vais dire, ce ne sera pas sur lui, ce sera en général. Écoutez. Pourquoi ne sommes-nous pas tous comme des frères? Pourquoi l'homme le meilleur du monde semble-t-il toujours cacher je ne sais quoi à son voisin et refuse-t-il de lui parler? Pourquoi ne peut-on pas dire directement là, maintenant, tout ce qu'on a sur le cœur, si l'on sait qu'on ne parlera pas pour rien? Parce que chacun a l'air de vouloir paraître plus dur que ce qu'il est vraiment, comme si les gens avaient tous peur de froisser leurs sentiments s'ils les expriment trop tôt.
Ah, Nastenka, c'est vrai, mais c'est dû à tant de choses.
Non, non. Vous, par exemple, vous n'êtes pas comme les autres. Il me semble que vous, par exemple, au moins en ce moment, il me semble, je ne sais pas, que vous vous sacrifiez pour moi. Vous m'excuserez si je vous le dis comme ça. Je n'ai pas encore vu grand-chose, je ne sais pas m'exprimer. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que je vous suis reconnaissante. Parce que tout ce que vous m'avez raconté l'autre jour sur votre rêveur, c'est absolument faux. C'est-à-dire, je veux dire, ça ne vous concerne pas du tout. Vous êtes en train de guérir, c'est vrai. Vous êtes un homme tout à fait différent de celui que vous avez décrit. Si un jour, vous tombez amoureux, j'espère qu'elle vous rendra heureux. À elle, je ne lui souhaite rien, parce que je sais qu'elle sera heureuse avec vous. Je le sais. Et vous devez me croire si je vous dis ça. Non. Visiblement, il ne viendra plus ce soir. Trop tard.
Il viendra demain.
Oui. Moi aussi, je vois qu'il viendra demain. Bon. Alors, au revoir. À demain. S'il pleut, peut-être je ne viendrai pas. Mais après-demain, je viendrai. Je viendrai à coup sûr. Soyez ici absolument. Je veux vous voir, je vous raconterai. Maintenant, nous sommes ensemble pour toujours, n'est-ce pas?
Demain, il va faire mauvais.
S'il pleut, nous ne nous verrons pas. Je ne viendrai pas.
Elle se tenait comme la première fois, accoudée au parapet du quai. Elle ne m'avait pas entendu approcher.
Nastenka?
Alors? Alors? Plus vite. Alors, où est sa lettre? Vous apportez sa lettre?
Non, je n'ai aucune lettre. Il n'est donc pas venu chez vous?
Tant pis pour lui. Si c'est ainsi qu'il m'abandonne.
Oh.
Ne me consolez pas. Ne me parlez pas de lui. Ne me dites pas qu'il viendra, qu'il ne m'a pas abandonné d'une manière si inhumaine. Pourquoi? Pourquoi? Pouvait-il y avoir quelque chose dans ma lettre, dans ma pauvre lettre? Oh, comme c'est cruel, pas une ligne. Pas une ligne. Il aurait pu répondre qu'il n'avait plus besoin de moi, qu'il me repoussait, mais non. De trois longs jours, pas une ligne. Quand je me souviens que je suis venue le voir moi-même la première fois, que je m'abaissais devant lui, que je pleurais, que j'implorais de lui ne serait-ce qu'une seule goutte d'amour. Et après ça... Mais ce n'est pas ça. Ça ne peut pas être ça. C'est pas possible. Peut-être n'a-t-il pas reçu la lettre? Peut-être n'a-t-il rien su jusqu'à présent? Peut-être a-t-il entendu je ne sais quoi. Peut-être quelqu'un lui a-t-il dit des choses sur moi. Dites, qu'en pensez-vous?
Écoutez, Nastenka, dès demain, j'irai le trouver de votre part.
Oui.
Je lui demanderai tout, je lui dirai tout.
Oui, oui.
Vous écrirez une lettre. Ne dites pas non, je l'obligerai à venir, il saura tout. Et si
non, mon ami, non. Assez. Plus un mot de ma part, plus une ligne. Assez. Je ne le connais pas. Je ne l'aime plus. Je vais l'oublier.
Calmez-vous, Nastenka. Venez vous asseoir, venez.
Mais je suis calme. Ça suffit. Ce n'est rien. Ce sont des larmes, ça va sécher. Vous pensez quoi? Que je vais me tuer? Me jeter à l'eau? Écoutez-moi. Dites-moi. Vous-même, vous n'auriez pas agi ainsi. Vous n'auriez pas abandonné celle qui serait venue vous trouver d'elle-même. Vous vous seriez représenté qu'elle était seule, qu'elle ne savait pas se préserver de l'amour qu'elle éprouvait pour vous, que ce n'était pas sa faute. Non. Non, que ce n'était pas sa faute. Elle n'a rien fait. Enfin.
Nastenka. Nastenka, ne me torturez pas. Vous vous moquez de mon cœur. Vous me tuez, Nastenka. Je ne peux plus me taire. Je dois parler enfin. Je dois exprimer tout ce qui bout ici, au fond de ce cœur.
Que vous arrive-t-il?
Écoutez. Écoutez-moi, Nastenka. Ce que je vais dire maintenant, ce sont des bêtises. C'est irréalisable, c'est stupide. Je sais que cela n'arrivera jamais, mais je ne peux plus garder le silence. Au nom de cela même qui vous fait souffrir, je vous en prie à l'avance, pardonnez-moi.
Mais quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
C'est irréalisable, mais... Je vous aime, Nastenka. Voilà. Maintenant, tout est dit. Maintenant, vous verrez si vous pouvez me parler comme vous venez de le faire.
Eh bien, et quoi? Qu'est-ce que ça fait? Je sais depuis longtemps que vous m'aimez. Seulement, il me semblait que vous m'aimiez comme ça, tout simplement.
D'abord, c'était tout simple, Nastenka, mais maintenant...
Mais qu'est-ce que vous me dites là? Mais enfin, je ne vous comprends plus. Mais écoutez, mais à quoi bon tout cela? C'est-à-dire, non, pas à quoi bon, mais... Pourquoi est-ce que vous... Enfin, si brusquement, je... Mon Dieu, je dis n'importe quoi. Mais, vous...
Que puis-je y faire, Nastenka? Que puis-je y faire? C'est ma faute. J'ai abusé de... Mais non. Non, ce n'est pas ma faute, Nastenka. J'ai été votre ami. Eh bien, votre ami, je le suis toujours. Je ne vous ai trahi en rien. Tenez, moi aussi, j'ai les larmes qui coulent. Qu'elles coulent donc. Elles ne dérangent personne, elles sécheront.
Oh, mais asseyez-vous.
Non, Nastenka, je ne veux pas m'asseoir. Maintenant, je ne peux plus rester ici. Vous ne pouvez plus me voir. Je vous dirai tout et je partirai. Tout ce que je veux vous dire, c'est que vous n'aurez jamais su que je vous aime. J'aurais emporté ce secret dans ma tombe. Je ne vous aurais jamais torturé maintenant, dans une telle minute, avec mon égoïsme. Non! C'est vous qui en avez parlé vous-même. C'est votre faute. Tout est de votre faute. Moi, ce n'est ma faute en rien. Vous ne pouvez pas me chasser.
Mais non. Mais je ne vous chasse pas. Non.
Vous ne me chassez pas? Non? Et je vais m'en aller quand même. Mais quand vous pleuriez, quand vous vous torturiez, parce que laissez-moi dire le mot, Nastenka, parce qu'on vous repousse, j'ai entendu qu'il y avait tant d'amour pour vous au fond de mon cœur, Nastenka, tant d'amour. Je n'ai pas pu me taire. Il a fallu que je parle, Nastenka, il a fallu que je parle.
Oui, parle-moi.
Vous me plaignez, Nastenka. Vous me plaignez tout simplement. Bah, ce qui est perdu est perdu. Ce qui est dit est dit. Voilà, c'est le point de non-retour. Mais tant mieux. Maintenant, tout est pour le mieux. Seulement, quand vous pleuriez, je me disais, Oh, laissez-moi vous dire ce que je me disais. Je me disais que... Mais cela n'est pas possible à l'évidence, Nastenka. Je me disais que vous... Enfin, que vous ne l'aimiez plus. Je vous aime tellement. Mais tellement. Que si vous l'aimiez encore, lui, si vous continuez à aimer celui que je ne connais pas, mon amour ne deviendra pas un poids. Tout ce que vous pourriez faire, c'est entendre. C'est sentir à chaque minute battre près de vous un cœur reconnaissant, un cœur ardent pour vous.
Non, ne pleurez pas. Je ne veux pas que vous pleuriez. Ne pleurez plus, venez. Venez maintenant. Oh, mon ami, quand je repense, quand je me suis moquée de votre amour, quand je vous félicitais de ne pas être tombée amoureux, mon Dieu. Oh, mais comment n'avais-je pas prévu cela? Comment pouvais-je être si bête? Mais... Oh, je l'aime. Mais ça passera. Ça doit passer. Ça ne peut pas ne pas passer. Ça passe déjà. Je le sens. Peut-être ce sera fini aujourd'hui même, parce que je le déteste. Parce qu'il s'est moqué de moi. Alors que vous... Vous avez pleuré avec moi, ici, parce que vous ne m'avez pas rejetée comme lui. Parce que vous m'aimez, et lui... Il ne m'aime pas. Parce que moi aussi, à la fin... Je vous aime. Oui. Je vous aime comme vous m'aimez. Et je vous l'ai dit moi-même, la première, vous l'avez entendue. Et si je vous aime, c'est que vous êtes mieux que lui. Que vous êtes plus honnête que lui. C'est parce que lui... Mais attendez, attendez. Je vais arrêter tout de suite. Je veux vous dire... Ne croyez pas que c'est l'âme. Ce n'est rien, une faiblesse. Attendez, ça va passer. Voilà. Ne croyez pas que je sois capable d'oublier. Si vite. Je l'ai aimé pendant toute une année. Et je le jure. Jamais je ne lui ai été infidèle. Cela, il l'a méprisé. Il m'a fait du mal. Il m'a humilié. Je ne l'aime pas. Parce que je ne peux aimer que ce qui est grand, ce qui me comprend, ce qui est noble. Parce que je suis comme ça moi-même, et lui, il est indigne de moi. C'est mieux maintenant, parce que je me serais trompée plus tard dans mon attente. J'aurais découvert sa vraie nature. Peut-être que cet amour n'était que fantasme, parce que j'étais épinglée à grand-mère. Bon, c'est fini. Même si je l'aime, non. Si je l'ai aimé, peut-être dois-je en aimer un autre, oui, un autre homme. Un homme différent qui me plaindrait et...
Nastenka. Oh, Nastenka.
Non, ça suffit. Bon, ça suffit vraiment. Maintenant, tout est dit. Oui. Bon, vous êtes heureux et moi aussi, je suis heureuse. Mais plus un mot de cela. Attendez, parlez de quelque chose d'autre.
Oui.
Oui.
Ah, c'est maintenant. Je suis heureux, je... Bon, Nastenka, bon, parlons d'autre chose. Vite, vite, parlons d'autre chose, oui. Je suis prêt.
Et nous ne savions pas de quoi parler. Nous rions, nous pleurions, nous disions mille mots sans queue ni tête. Soit nous marchions le long du trottoir... Soit brusquement, nous revenions sur nos pas et nous nous mettions à traverser la rue. Puis nous nous arrêtions, puis nous revenions sur le quai. Nous étions redevenus de vrais enfants.
Aujourd'hui, je vis seul, Nastenka, mais demain... Bon, bien sûr, vous le savez, Nastenka, je suis pauvre, mais ce n'est pas grave.
Bien sûr que non. Et puis, grand-mère a sa pension. Il faut prendre grand-mère.
Bien sûr qu'il faut la prendre. Mais seulement, Matryona...
Ah, mais chez nous aussi. Il y a Fiok, là. Ça ne fait rien. Elles pourront s'entendre. Vous venez vivre chez nous demain.
Comment ça? Chez vous? Bon, je suis prêt.
Oui, vous serez notre locataire. Grand-mère, je le sais, veut louer un jeune homme. Je lui dis, pourquoi un jeune homme? Et elle, comme ça, je suis vieille. Mais seulement ne va pas croire que je vais te marier. Moi, je devine bien que c'est ça qu'elle veut.
Ah, Nastenka.
Mais où habitez-vous? J'ai déjà oublié.
Là-bas, près du pont.
Une espèce de grand immeuble, comme ça.
Oui, un grand immeuble.
Ah, je connais. C'est très bien, comme immeuble. Mais quittez-le vite. Installez-vous vite chez nous.
Dès demain, Nastenka. Dès demain. J'ai encore une petite dette pour mon loyer, mais ce n'est rien. Je reçois bientôt mon salaire.
Hé, vous savez, moi, peut-être, je vais donner des cours. Je vais apprendre moi-même et je donnerai des cours.
Voilà qui est splendide. Et moi, je toucherai bientôt une prime, Nastenka.
Ainsi, demain, c'est vous qui serez mon locataire.
Oui, et nous irons voir le barbier de Séville parce qu'on le redonne bientôt.
Oui, nous irons, ou plutôt non, pas le barbier, plutôt quelque chose d'autre.
Bien sûr, quelque chose d'autre. Bien sûr, ce sera mieux, je n'y pensais plus.
Il est temps, maintenant il faut que je rentre. Je pense qu'il est très tard.
Oui, Nastenka. Mais maintenant, je ne m'endormirai plus. Je ne rentre plus chez moi.
Moi non plus. Je ne crois pas que je dormirai. Vous me raccompagnez?
Absolument.
Mais vous m'accompagnez absolument jusque chez moi, maintenant. Jusqu'à la porte.
Absolument, absolument.
Parole d'honneur. C'est vrai quand même. Il faut bien finir par rentrer.
Parole d'honneur.
Eh bien, allons-y.
Allons-y. Regardez le ciel. Nastenka, regardez. Demain sera un jour splendide. Oh, comme le ciel est bleu. Et cette lune! Regardez ce nuage jaune qui vient de la voiler. Regardez, regardez! Ah non, il est déjà passé. Mais regardez, regardez!
Or, Nastenka ne regardait pas les nuages. Elle se tenait muette, paralysée. Une minute plus tard, d'une façon incertaine, timide, elle se pressait contre moi. Sa main se mit à trembler dans la mienne. Je la regardai. Elle se serra contre moi encore plus fort. À cette minute, nous vîmes passer devant nous un jeune homme. Il s'arrêta soudain, nous regarda fixement, puis de nouveau, il refit quelques pas. Mon cœur trembla. Nastenka, qui est-ce? Nastenka?
C'est lui.
Nastenka! Nastenka! C'est bien toi! Oh!
Mon Dieu, quel cri! Comme elle sursauta, comme elle s'arracha de mes bras, comme elle vola à sa rencontre. Je restai là. Je l'ai regardé plus mort que vif. Pourtant, à peine lui avait-elle donné la main, à peine s'était-elle jetée dans son étreinte, que brusquement, une fois encore, elle se tournait vers moi, se retrouvait près de moi, comme une bourrasque, comme un éclair. Et avant même que j'eusse eu le temps de me remettre, elle s'accrochait à mon cou et me donnait un baiser passionné. Et sans me dire un mot, elle courut de nouveau vers lui, le prit par les mains et l'entraîna avec elle. Je restai longuement figé. Je l'ai regardé partir. Enfin, ils disparurent de ma vue.
Une lettre pour toi, mon bon monsieur. Le facteur vient de passer.
Une lettre? De qui?
Bah, j'en sais rien, mon bon monsieur. Peut-être que c'est écrit dessus.
Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Je vous ai abusé, je me suis abusé moi-même. C'était un rêve, un mirage. Aujourd'hui, je souffre tant pour vous, pardon, pardonnez-moi.
Aujourd'hui, je souffre tant pour vous.
Parce que je n'ai changé en rien.
Pardon. Pardonnez-moi.
Je vous aimais, je vous aime toujours.
Ne me condamnez pas, parce que je n'ai changé en rien à votre égard. J'ai dit que je vous aimais, je vous aime toujours, et c'est peu dire que je vous aime. Oh mon Dieu, si je pouvais aimer deux hommes en même temps. Oh, si vous étiez lui. Oh, s'il était vous. Que ne ferais-je pas pour vous en ce moment? Je sais que vous vous sentez triste et seule. Je vous ai fait de la peine, et quand on aime, les offenses, on s'en souvient. Merci, oui, merci de cet amour. Parce qu'il s'est imprimé en moi comme un rêve délicieux dont on se souvient longtemps après le réveil. Parce que je me souviendrai à tout jamais de cet instant où vous m'avez si fraternellement ouvert votre cœur et si magnanimement avait reçu le don du mien. je garderai cette mémoire. Je lui serai fidèle. Je ne peux pas trahir mon cœur, il est trop constant. C'est pour ça que je ne pouvais que retrouver celui que j'aimais. Si vous me pardonnez, nous nous retrouverons. Vous viendrez nous voir, vous serez à jamais mon ami, mon frère. Et quand vous me verrez, vous me tendrez la main. N'est-ce pas que vous me la tendrez ? Vous m'avez pardonné, n'est-ce pas ? Vous m'aimez comme avant ? Je vous aime tellement à cet instant. Je me marie la semaine prochaine. Il est rentré amoureux, il ne m'a jamais oublié. Vous ne serez pas fâché si je vous écris. Mais je veux venir vous voir avec lui. Vous l'aimerez, n'est-ce pas ? Pardonnez-moi. Souvenez-vous. Et aimez.
Pardonnez-moi. Souvenez-vous. Et aimez.
Votre Nastenka.
Votre Nastenka. Je lis et relis longuement cette lettre. Les larmes coulent de mes yeux. À la fin, elles me tombent des mains. Je me cache le visage.
Mon petit pigeon ! Oh ! Mon petit pigeon !
Quoi, la vieille ?
Ben, la toile d'araignée. Je te l'ai enlevée de ton plafond. Maintenant, tu peux même te marier. C'est quand tu veux.
Je lève les yeux sur Matryona. C'est une vieille jeune, encore en pleine santé. Mais je ne sais pas pourquoi, elle m'apparaît brusquement le regard éteint, le visage ridé, courbé, sans force. Je ne sais pas pourquoi, il me semble que ma chambre a vieilli, comme ma vieille servante. Les murs et le plancher ont déteint, tout s'assombrit. Les toiles d'araignée ont encore grossi. Je ne sais pas pourquoi, quand je regarde par la fenêtre, il me semble que l'immeuble d'en face, lui aussi, est tout vieux, s'assombrit à son tour, que la peinture des colonnes, écaillée, tombe, que les murs ont perdu leur belle teinte pour devenir tachetés. Un rayon de soleil apparaît soudain derrière un gros nuage noir, se cache à nouveau derrière un nuage de pluie, assombrit tout ce qui se trouve devant mes yeux, où je vois devant moi, si triste et si revêche, la perspective de mon avenir. Et je me découvre tel que je suis en ce moment, mais dans 15 ans, vieilli, dans la même chambre, avec la même Matryona, qui pendant toutes ces années n'aura pas pris une once de sagesse. Mais que je me souvienne de mon offense, Nastenka, que je jette un nuage sur ton bonheur serein et pur, que d'un reproche amer, je fasse naître un trouble dans ton cœur, que je le blesse d'un remords secret et l'oblige à se torturer d'angoisse en ces minutes de béatitude, jamais. Jamais. Que ton ciel reste clair.
Bruitage, Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son et mixage, Cédric Chatelus. Assistance technique et montage, Sacha Tropp. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Michel Sidorov. Les Nuits Blanches de Fiodor Dostoïevski sont publiées aux éditions Actes Sud dans la collection Babel.